vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 49. Dans le violon, tout est bon, pour moi et sur le toit. Chers amis, bonjour. Ah, vous souvenez-vous du plaisir de prendre, juste sur un coup de cœur, l'avion, d'aller partout sur le toit du monde, par exemple à Broadway à New York ou bien à Anatevska dans la Russie impériale. Alors nous recevons aujourd'hui dans, vous l'avez bien connu, le pilote de l'avion, dans le violon tout est bon pour moi et sur le toit. Et le pilote de l'avion, c'est une dame, Alicia O'Callaghan, qui est danseuse bien connue à Strasbourg dans la compagnie des Amis du Carré d'Art, et elle est chorégraphe de la Young Actors Theatre de Strasbourg.
Bonjour chère Alicia O'Callaghan, merci de venir dans notre émission de radio. Vous l'avez bien connu. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité, Ambroise Perrin.
Je sais que vous êtes une Alsacienne, 100%, pur sucre d'Erstein. Mais vous avez un petit accent, c'est du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin?
Alors, je vais vous dire que c'est un accent, alors, surtout pas du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, mais de l'ouest du Bas-Rhin, et en fait un accent de New York. Parce que j'ai habité à Canal Street, qui est une grande rue tellement sympathique à tous les Alsaciens. Et vous savez qu'on est toujours du pays où l'on vit. Moi, j'ai vécu en Russie impériale. J'ai vécu à Miami, pas très social. J'ai dansé à New York, pas banal. Et là, je suis à Strasbourg et je vais dans tous les bals.
Je vous ai invité, chère Alicia O'Callaghan, pour vous parler d'un spectacle où vous réglez les chorégraphies.
Oui, c'est Un violon sur le toit, grande comédie musicale qui a été interprétée des dizaines et des dizaines de fois avec des interprètes souvent prestigieux. Et la comédie musicale a eu aussi un grand succès ou une grande renommée grâce au film, bien sûr. Mais là, c'est un montage avec les élèves et les étudiants américains de Strasbourg. Il y a aussi des Suédois, enfin, tous ceux qui sont un petit peu américano-alsaciens, parce qu'il y a parfois des couples comme ça, hein. Le papa est américain et la maman est alsacienne, ou vice-versa. Et donc, nous montons ce spectacle un petit peu comme ça, en famille, entre nous. Et on l'a joué tout le mois dernier au Point d'Eau, à Oswald. Et on aurait bien voulu faire une tournée internationale. Mais là, maintenant, prendre l'avion pour aller jouer à New York, c'est pas facile. On a failli jouer à Kiel. Ah, si on traverse le Rhin, ça devient déjà une tournée internationale. Mais c'est toujours compliqué quand il y a 80 personnes sur scène, les musiciens et tout. Voilà. Donc, moi, en tant que chorégraphe, j'ai fait ça surtout pour le plaisir de se retrouver tous ensemble.
Ah oui, donc il va falloir que c'est une communauté ici qui se donne beaucoup de leur propre temps pour quand même avoir leurs propres enfants dedans, pour la liberté de l'école est quand même très important.
Ah oui, parce que bien sûr, on aimerait faire tout l'encadrement, hein, ceux qui font la mise en scène, moi, les chorégraphies, les musiciens, on aimerait répéter pratiquement 3 ou 4 fois par semaine, mais c'est impossible pour les élèves. Donc, on est obligé de restreindre les répétitions. Je dois dire qu'ils sont très assidus, ils viennent, ils adorent ça et tout. Mais je peux vous dire que pour notre spectacle de l'an passé, hein, Guys and Dolls, tous nos élèves ont réussi le bac. Donc c'est quand même la preuve que le théâtre ne leur sert pas de prétexte pour être des mauvais élèves.
C'est formidable ça quand même, parce que ça c'est quelque chose qui peut aider un enfant à être encore plus à l'aise dans leur peau, parce que ce n'est pas facile d'être un teenager de nos jours.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que nos enfants, disons américains, ne vivent pas dans une bulle à Strasbourg. Strasbourg, c'est une ville formidable, parce que je crois qu'il y a 180 différentes nationalités à l'université. Il y a des gens qui viennent de partout. Mais franchement, partout, maintenant, quand on se promène en ville, on entend le chinois, le japonais, un peu d'arabe, un peu de mexicain. Et si on comprend l'espagnol, c'est des argentins. Il y a vraiment... voilà. Et ce n'est pas des touristes, ce sont des gens qui vivent à Strasbourg. Et ça, c'est très, très bien, même s'ils sont complètement paumés parce que Strasbourg est devenue une ville impossible. Avec, on fait 50 mètres en marchant, on a 30 panneaux différents qui vous disent ce qu'il faut faire à droite, à gauche, en bas, piéton, marcher à cloche-pied, cycliste, oui. Oui, cycliste, poser le pied à terre, et étudiant, marcher sur les toits. Ben ah. voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette digression et tout.
C'est poétique, oui.
Oui, mais nos élèves, ils adorent ça. Et donc, nous, on est très contents. Et ils amènent leurs copains, qui ne sont pas forcément liés à l'Amérique. Et je crois que maintenant, les États-Unis ne fascinent plus... comme par exemple dans les années 70, parce qu'il y avait la génération hippie, la Californie, Peace and Love. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus banal. Et les gens viennent nous voir sans aucune appréhension. Moi qui suis d'une génération ancienne, vous savez... vous savez, moi je suis déjà une grand-mère. Hein, donc, oui.
Félicitations.
Et ben, quand je suis arrivé pour la première fois en Europe... dans les années 70-80, tout de suite, on me balançait le Vietnam à la tête. C'était, moi, l'américaine, j'étais la méchante. Hein. Oui. Y avait eu les films de Godard, qui étaient très chouettes et tout, avec Chantal Goya, il y avait des trucs. Mais moi, je porte encore le poids de cette... culpabilité collective en tant qu'américaine, comme les Alsaciens portent le poids de la culpabilité collective d'avoir de la famille allemande. Et quand on a un grand-père allemand, la seule question qu'il ne faut pas poser le dimanche, c'est « Grand-père, qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre ?»
Hein, oui,
ça, voilà. Ça, et ben, moi, c'était
compliqué.
Un petit peu comme ça. En tant qu'américaine, on me disait « Alors, le Vietnam, comment c'est ?» et tout, voilà. Mais je vous propose de continuer à parler de musique.
Des choses plus gays, oui.
Gays, je ne sais pas, parce que un violon sur le toit, c'est quand même une ambiance qui n'est pas forcément... ce n'est pas un film de Minelli qui se passe n'importe où. Hein,
ceci ça. Est vrai. Est-ce qu'on sait ou pas s'il y a un happy ending? Mais c'est vrai que Hollywood veut toujours créer cette image. Mais ma chère Alicia O'Callaghan, moi, Ambroise Perrin, en tant que journaliste, je dois vous avouer que j'adore Un violon sur le toit. Je vais vous dire pourquoi cette comédie musicale est géniale, bien sûr. J'ai vu le film de Norman Jewison avec Chaim Topol et Norma Crane, mais c'est surtout l'histoire de cette comédie musicale qui me passionne.
Oui, alors racontez-moi, Ambroise, qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire ?
Alors, au fait, la personne qui a écrit vraiment les petites anecdotes de ce TVA qui est un milkman, donc c'était un... Il tirait le lait, quoi. Donc, il a eu 5 filles. Pas de chance pour quelqu'un qui doit travailler sur une ferme. Hein. Pas de chance à l'époque. Ben, parce qu'il n'y avait pas de garçons.
Ben, donc, c'est comme Maria Leshinska et Louis XV, ils n'avaient que des filles alors qu'il leur fallait un héritier.
Oui, c'est ça. Mais bon, elle compte avec l'humour et l'émotion la vie tour à tour joyeuse et tragique de la communauté juive ou chetel d'un village ukrainien. Et bon, c'est devenu l'impériale Russie parce que le tsar était là, et les pogroms et tout ça.
Mais moi, en tant que chorégraphe, je vous pose une question, je pose la question aux journalistes. Est-ce que vous pensez que dans notre spectacle, qui est quand même du entertainment, on doit mettre cette notion de l'Ukraine actuelle en exergue ou le relever dans notre spectacle? Quelle serait votre réaction, vous, en tant que journaliste, si on dénonçait l'agression russe dans notre spectacle, Un violon sur le toit?
Oui, je vous avoue que je pense que ce n'est pas conseillé de faire un speech par quelqu'un politique dans l'audience non plus, parce qu'on essaie d'éviter ça, parce que c'est pour le public, le tout public. Mais on apprend toujours les leçons, que la migration va toujours exister et que les gens vont toujours malheureusement être poussés dehors de chez eux, de même de nos jours, évidemment, malheureusement. Et quand on n'est pas affecté, on sent qu'on ne porte pas l'importance, mais c'est sûr que ça nous affecte quand même. On a des grands-parents qui sont venus d'ici et de là.
Oui, donc c'est un sujet que l'on garde en tête. Je dois vous dire que le choix du spectacle ne s'est pas fait parce que cela se déroule en Ukraine, parce que ça fait longtemps qu'on voulait monter le violon sur le toit. Mais c'est vrai que l'actualité maintenant nous oblige à avoir une empathie, à sentir une solidarité. Mais dites-moi, cher journaliste Ambroise, est-ce que vous savez quelle est l'origine du titre « Un violon sur le toit » ? Qu'est-ce qui a inspiré le script de départ?
Alors, au fait, tout au début de mes connaissances, je ne suis pas juste un journaliste des films Hollywood américains, mais le violon, celui qui joue le violon, c'est pour garder l'équilibre. Donc, s'il est là en train de balancer sur le toit, le message est qu'on ne va jamais perdre notre équilibre. Et bon, c'est sûr que c'est la peinture de Marc Chagall.
Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ça, bravo ça. Ambroise. Voilà, c'est Chagall.
C'est Chagall,
c'est quand même, on a une admiration, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être à cause du plafond de l'opéra, ou parce que, oui. Mais Chagall fait rêver, enfin c'est cette fausse naïveté qui est absolument extraordinaire, et effectivement ça raconte cette perte de l'équilibre possible, de balancer entre la fiction et la réalité, entre l'historique qui est l'histoire tragique des Juifs au XIXe siècle en Russie, oui. Et en même temps en faire quelque chose de drôle, d'amusant. Alors bien sûr, il y a l'histoire d'amour derrière qui fait que oui. C'est enrobé de tissu rose, mais... Woody Allen a aussi cet esprit un petit peu de d'enraciner ses récits moins récemment, mais dans un contexte qui permet d'avoir une double lecture des choses. Et un violon sur le toit, ça permet cela, oui.
Oui, évidemment, il y aura des moments drôles parce que personnage Tevye, il est robuste, il est gros, il est on croit qu'il est feignant, même s'il travaille dur, il a toujours un cheval qui a la jambe cassée, donc il doit porter la charrette tout seul, tout ça. Bon, il se plaint souvent, mais il crie un peu beaucoup parce que il veut dire c'est moi le père, c'est moi qui décide. Et mais il a aussi le problème que ses filles tombent amoureuses de, voilà, un non-juif, un russe. Et c'est comme nos problèmes de nos jours aujourd'hui. Qu'est-ce que le parent doit souhaiter le mieux pour son enfant?
Et si l'enfant... Rien.
Oui. Et si l'enfant...
Mais tout. Il faut tout leur donner, la culture. Oui. Moi, quand on fait les répétitions comme ça, on en discute beaucoup, hein, parce que bon, les chorégraphies, ce n'est pas pendant tout le spectacle, donc il y a des moments de pause. Et je discute avec tous les élèves. Alors c'est formidable, parce que vous parlez des mariages. Bon, maintenant on ne se marie plus, mais on se met ensemble. On sort ensemble, on est compagnons, on est en couple et tout. Oui. Et je vois bien, les petites filles américaines, elles n'ont aucun... complexe ou aucune... elles n'écoutent plus leurs parents qui pourraient leur dire « Ah, j'aimerais que ma fille épouse un Américain ». Pas du tout. Alors là, elles sont là. C'est les générations Erasmus hein, pour tous les autres.
Ouais.
Erasmus, la nationalité c'est bien, ouais. n'a plus, et même la couleur, hein, la race, la religion non plus. Bon, on est juif de religion catholique, on est musulman non pratiquant qui mange du cochon, on est... Voilà. Voilà, donc ça c'est formidable à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans. Si les parents ne vous mettent pas une chape qui vous bloque dans vos espèces de trucs orthodoxes, traditionnels, de trouille de la vie et du manque de jouissance générale. Moi je vois ces gamins qui dansent avec nous, c'est assez formidable. Et ils n'ont pas cette... on parlait des années 70 aux États-Unis, hein, de Californie, que j'ai bien connue. Hein, bon, j'ai vécu à San Francisco. Les jeunes actuellement, grâce à Internet, grâce au fait qu'ils voyagent tout le temps, ils ont une ouverture d'esprit formidable. Et donc, à votre question de journaliste, que doivent faire les parents? Moi, je réponds, quand je réponds rien, c'est un peu provocant, mais ça veut dire tout. C'est-à-dire leur ouvrir les portes à tout en répétant dès l'âge de 5-6 ans, quel est le meilleur ami d'un enfant? Un livre.
Mais oui.
Hein, vous êtes d'accord en tant que journaliste
Mais oui, on peut voyager dès qu'on l'ouvre, quoi. Donc c'est une jolie image même, ouais. Et en parlant des voyages, justement, chère Alicia O'Callaghan, quand on débarque en... Russie, là, 1900, qu'est-ce que les enfants peuvent imaginer de la pauvresse, de toute cette misère, pauvreté que ces gens-là, ils ont vraiment vécu, quoi. Donc, ils se plaignent peut-être qu'on doit mettre trop de costumes, ils ont trop chaud, mais...
Est-ce que vous pensez, parce que vous avez assisté à la répétition du spectacle, est-ce que vous pensez que cet aspect un peu ethnologique devrait être accentué dans notre spectacle?
Oui, au fait, c'est vrai que le fait qu'on a, j'ai assisté, j'étais en train de voir qu'on a fabriqué les barbes pour carrément mettre sur les visages des jeunes garçons qui n'ont même pas de
poils au menton.
De poils au menton encore. Donc, on ne les offre pas encore un rasoir pour Noël. Donc,
oui.
C'est quand même toute une aventure. Mais je trouve que ce que j'ai... assister à voir, c'était une auto... On cherche d'être authentique de la production de tout ça. Donc, je vous dis, Madame O'Callaghan, que je trouve que votre association essaie de tirer tout ce qu'ils peuvent des jeunes élèves qui, peut-être, ils n'ont pas exactement toute l'expérience qu'il faut.
Mais en tout cas, ils prennent du plaisir sur scène.
C'est ça.
Je dis ça aux auditeurs, vous l'avez bien connu, si vous allez voir ces spectacles avec des jeunes et tout, il faut voir leur jubilation, le plaisir d'être sur scène.
Oui.
Et dans 30 ans ou 40 ans, ils s'en souviendront encore, même s'ils ne font pas une carrière d'acteur.
Et est-ce que vous pensez que c'est ça, cet esprit-là? Je dis qu'en France, il y a beaucoup d'entertainment et... je trouve que beaucoup d'Américains, ils ont suivi ceux qui connaissent certains entertainers de certaines époques. Mais c'est vrai que les Américains sont connus pour Hollywood et tout et tout. Et Metro-Goldwyn-Mayer et Cecil B. DeMille et tous ces danseurs sur les escaliers et tout. Et
William Wyler.
Et William Wyler.
Vous oubliez Ambroise qu'il est alsacien. Oui. Ah oui, hein, 2012.
C'est ça que je trouve quand même... On a eu le meilleur de l'Europe, quand même, pour former.
Oui. Et les Marx Brothers,
qui
venaient de Märzwiller.
Oui, c'est tout près.
Oui.
Hein? Je ne sais pas si vous avez visité tout.
Ah, mais Märzwiller, c'est tout près de Haguenau.
Ah oui, donc oui. C'est plutôt dans le nord, c'est ça. Très voilà. Bien. Oui, que moi je connais, avec les yeux fermés.
Ben, bien sûr, cher Ambroise, vous êtes, je sais que... vous avez passé votre jeunesse à Haguenau, dans la rue des Fourmis, très célèbre, grâce à vos chroniques.
Oui, mais oui.
Vous voyez, en tant qu'Américaine, lorsque je suis arrivé pour la première fois à Strasbourg, je vais à l'office du tourisme et je dis, voilà, je vais passer une semaine en Alsace, qu'est-ce que vous me conseillez? Et on m'a envoyé dans le sud, faire la route du Rhin et tout ça. sans me préciser qu'il y avait une route du Rhin dans le nord de l'Alsace. Alors, bien sûr, on arrive à Haguenau, et ensuite il faut traverser la forêt de Haguenau, c'est une douzaine de kilomètres, et on se trouve au sud de la Finlande. Mais au sud de la Finlande, il y a Klébourg, avec des vignobles fabuleux. Il y a Soule-sous-Forêt, il y a Surbourg, et il y a Vissembourg, qui est magnifique. Et moi, en tant qu'Américaine, en arrivant là-bas, je me suis un peu renseigné et j'ai lu toute l'opération Nordwind quand les Américains, le 31 décembre 1944, il y a eu la contre-offensive de Hitler et dans le nord de l'Alsace et avec la bataille de Hattin et les Américains, les Alsaciens du nord de l'Alsace ont une sympathie énorme pour les Américains parce que ils ont vraiment beaucoup aidé les civils, parce que les civils n'avaient pas été évacués. Hein. C'était une bataille où les civils étaient au cœur et les Américains étaient considérés vraiment comme les sauveurs. Et je ne sais pas, je vais vous raconter une anecdote. Hein. Bon, moi, en tant qu'Américaine, je le sais parce que j'ai un grand-oncle, un arrière-grand-oncle qui a été dans la bataille de Hattin. Mais... Alors, c'est du côté de ma mère, mais il avait des origines alsaciennes, enfin allemandes.
D'accord.
C'est un grand-oncle qui a émigré à New York, puis à Philadelphie, en 1933-34, enfin le reste de la famille, lors de la montée du national-socialisme en Allemagne. Mais ses enfants, ceux qui sont partis en 1944 en Europe pour se battre pour la liberté, ils parlaient l'allemand.
Ah,
donc,
même.
Les soldats américains... Hein.
Vous avez,
hein?
Appris ça,
ah,
c'est
oui,
bien.
Oui, les soldats américains qui se battaient dans le nord de l'Alsace, il y en a certains qui parlaient allemand. Donc, ils parlaient en allemand avec la population, mais ils parlaient allemand aussi avec les soldats qui étaient en face. Vous imaginez, Hitler avait envoyé les gamins de 17 ans, c'était les dernières troupes. Et les soldats américains super équipés qui disaient, mais gamin, viens, je te donne à manger. Allez, arrête, pose ton fusil et viens. Voilà.
Avec... Vous avez bien appris. Hein,
Ah, mais moi, depuis que je suis en Alsace...
Pour dire que de prendre l'autre culture comme le vôtre, c'est important parce qu'on est, on s'est entre-aidés, ça c'est sûr, et c'est bien d'avoir cette reconnaissance.
Oui, mais parce qu'il faut toujours se méfier des clichés. C'est pour ça que je vous posais une question en tant que journaliste. Les fameuses barbes que vous avez remarquées, hein, qu'on met à des gamins de 16 ans, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop, que c'est un cliché qui fait qu'on tombe dans la caricature?
Oui, ça pourrait, mais je pense que il faut que vous suivez quand même ce que vous pensez. Bon, je pense que vous avez fait beaucoup de recherches quand même, sur les costumes et tout, pour savoir
bien sûr.
C'est pour ça, tout ce qu'on a, je pense que vous avez étudié, c'était prouver que peut-être il faut suivre assez l'authenticité
Ou alors il faut transposer, hein,
Oui, mais je pense que votre, c'est pas une compagnie, mais je pense que vous faites pas une version modernisée de quelque chose qui vient d'une certaine époque.
Peut-être que l'an prochain, on fera ça.
Oui, peut-être.
Oui, ce serait...
Je serai là, probablement.
Ah ben, vous êtes invitée permanente en tant que journaliste, mais on pensait faire une comédie musicale autour de... Alors, je dis ça, cher Ambroise, parce que je sais que c'est votre spécialité et que vous adorez ça. On voudrait écrire une comédie musicale autour de la tarte au fromage de la rue Gaillère. je vous fais rire, hein, ça vous plaisait.
Vous me donnez faim aussi.
Oui,
on parce va que... peut-être.
Oui.
Ben, c'est... Prendre le goûter. Je vous apprendrai à l'heure du goûter.
Oui.
Madame O'Callaghan.
Oui, mais vous savez, aux États-Unis, actuellement, on fait très attention à la junk food. Parce que ça, c'est une catastrophe. Donc, les jeunes, par exemple, nos jeunes Américains, ils viennent aux répétitions, ils n'ont pas de chips, ils n'ont pas de...
Ils n'ont pas le droit de manger des
carottes biologiques qui viennent de la Roberto.
C'est bien.
La vie à Strasbourg devient, vous savez, très écologique, tout ça. Puis, comme on dit... apaiser, hein, voilà, oh. Il faut apaiser et tout, donc ils sont obligés de venir en vélo, ils peuvent pas venir, les parents ne peuvent plus les conduire en voiture, et puis le tram c'est tellement compliqué, il faut faire un kilomètre après, et puis...
Mais bon, les enfants, comme partout dans le monde, les enfants s'adaptent.
Oh, voilà.
Comme par exemple pour le Covid, je veux pas revenir à un sujet qui blesse, mais on a tous vécu ça. Est-ce que votre spectacle était...
Alors, on a essayé de faire notre spectacle, le spectacle du Covid. On s'est dit, on va le faire à distance, en vidéo. Chacun danse dans sa cuisine et on le remet. C'était un peu... je dois dire qu'on a repris du plaisir à se retrouver tous ensemble. Ça
j'imagine.
Voilà, on ne peut pas faire la répétition du violon sur le toit en télétravail.
Ça ne vaut pas le coup.
Non, ça ne vaut pas le coup et tout. Ouais. Oui, voilà.
Et pour revenir à justement cette tradition, le mot tradition qui est très important dans ce spectacle quand même, l'importance des rites pour s'exprimer dans la communauté... il paraît que Tevia, il dit dans son prologue au début, « Each one knows their place and what God expects of them. »
Alors, c'est une question intéressante parce que, bon, en Alsace, même s'il y a le Concordat, c'est quand même un spectacle... franchement, la religion, on garde ça à la maison. Hein. C'est un truc personnel, on fait comme on veut, on se tourne vers où on veut et tout, mais surtout que ça ne sorte pas. Et dans le spectacle, cette notion qui date quand même des années 50, on s'en est débarrassé. Ça, c'est quelque chose auquel... ça ne veut pas dire qu'on ne conserve pas les traditions, hein, l'esprit, tout cela. On a des racines qu'on veut absolument développer. Mais l'aspect... spirituel, c'est quelque chose de très personnel. Il faut surtout pas l'imposer aux jeunes, aux gamins et tout. De toute façon, si on leur dit, vous venez tous, on va faire une prière avant le spectacle, je crois qu'ils nous enverraient bouler complètement. Voilà.
Oui, mais bon, c'est plutôt dans l'histoire de ce qu'ils présentent. Ça veut dire qu'il faut que, comme acteurs, ils comprennent qu'eux, ils racontent l'histoire. Et justement, comme vous, comme danseuse, raconte les histoires avec la danse, c'est
oui.
ça.
Oui.
Donc, cette tradition qui est un numéro tellement fort, je crois que je vous ai entendu dire l'autre jour que la précision de chaque pas dans cette chanson Tradition, c'est tellement important parce que c'est vraiment pour enraciner tout ce qui croit dans cette communauté. Donc, est-ce que...
Oui, c'est exactement ça, là. Merci, Ambroise. Je vois que vous avez bien suivi la répétition du spectacle. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel on veut transmettre aux spectateurs, parce qu'on est une grande communauté où chacun fait ce qui lui plaît, c'est très bien, dans l'esprit commun, on partage, c'est pas une histoire de respect, c'est une histoire d'enrichissement les uns les autres. Eh bien, mon cher Ambroise, merci, voilà.
Et ma chère Alicia, Madame O'Callaghan, donc c'est un plaisir vraiment, vraiment joyeux de vous retrouver ici et à une prochaine, j'espère.
Ah ben...
Et break a leg.
Bien sûr. Merci de m'avoir invité. C'était l'épisode numéro 49 de Vous l'avez bien connu. Dans le violon, tout est bon, pour moi et sur le toit. Avec aujourd'hui... Alicia O'Callaghan.
C'était donc l'épisode numéro 49 à la technique Lucas Bringout, diffusion tous les mardis à 11h30 et rediffusion le dimanche à midi. Et mon nom, en équilibre sur le toit de Chagall, mon nom c'est Ambroise Perrin.